Océane. Légende bretonne.
Et je suis très heureux d'accueillir à nouveau aujourd'hui Claudine Glot, femme de lettres, spécialiste de la mythologie celtique. Vous la connaissez maintenant, autrice avec Martine Tanneux de Contes et légendes de Brocéliande, paru aux éditions Ouest France. Bonjour Claudine.
Bonjour Yannick.
Et on a beaucoup de chance puisque vous nous partagez une nouvelle histoire qui va nous plonger dans une atmosphère qui moi m'a fait penser à celle du roman Le Nom de la Rose d'ailleurs, qui était devenu un film de Jean-Jacques Haneau. On parle aujourd'hui donc d'un meurtre au cœur d'un monastère, celui de Saint-Léry, Claudine.
Oui, c'est exactement ça. Il y a un meurtre beaucoup plus facile à élucider que Le Nom de la Rose. Et c'est juste que ça se passe un petit peu plus tôt. C'est-à-dire que ça se passe à la fin du règne de Charlemagne. La forêt a déjà été habitée par plusieurs saints, dont Saint-Léry qui a créé cet endroit. Et au moment où notre histoire commence, le prêtre qui dessert l'église abbatiale s'appelle Vigrial. Et c'est un prêtre extraordinaire. D'abord parce qu'il est gentil, il est bon, il n'accable pas les gens sous leur péché, il les aide dans tout ce qu'il peut, il chante merveilleusement bien, les oiseaux lui répondent, les paroissiens assurent que quand ils rentrent dans la forêt très noire, ils ont vu des démons s'enfuir en courant devant lui, tellement il est pur et lumineux, et surtout il aide les gens, il a des dons en médecine, il les aide à vivre, il leur donne tout ce qu'il peut leur donner, et il a un talent que beaucoup n'ont pas, il sait lire bien sûr pour un prêtre, écrire et compter, donc il fait les comptes des pauvres, ça c'est vite fait, mais il fait aussi les comptes des riches. Et notamment ceux du seigneur local, qui est le seigneur du Loup, le château du Loup, juste à côté de Saint-Léry. Et régulièrement, le seigneur, quand il s'en va en voyage, lui confie son trésor, ses pièces d'or. Et justement, le seigneur du Loup vient de lui confier un trésor assez énorme, parce que 70 pièces d'or, il y a de quoi vivre deux ou trois vies somptueuses. Mais le malheur veut que, dans sa bonté, Vigrial a accepté d'accueillir chez lui ses neveux, les enfants de sa sœur, qui sont des voyous finis. Mais lui est tellement généreux, tellement positif que...
Il croit au côté bon qu'ils ont forcément en eux aussi, c'est ça.
Voilà, et il se dit, je vais le faire émerger à mon contact, ils vont devenir meilleurs, je vais les tirer de la mauvaise route dans laquelle ils sont engagés. Donc, il est là, il vient de recevoir le trésor, les garçons sont il ne sait pas où, et il va dans ce qu'il croit être sa cage secrète, c'est-à-dire derrière l'autel, sur le plancher de bois qui entoure l'autel, il y a une latte de deux lattes de bois qu'on enlève et là il glisse les pièces, donc tout va bien. Mais le malheur, le vrai malheur, c'est qu'on vient le chercher à ce moment-là, pour une de ces pauvres paroissiennes qui est en train de trépasser. Alors, il part en courant, et les deux frères, qui ont bien compris ce qui se passait, qui ont bien repéré qu'il passait de l'or et de l'argent et des objets précieux, ont repéré la cachette depuis longtemps. Donc, dès que leur oncle est parti, ils prennent une barre de fer, une pelle, et ils entrent dans l'église, et ils commencent à faire craquer, à faire soulever les lattes du parquet. Sauf que Vigrial, en partant en courant, a oublié son étole. Donc, il revient, il rentre dans sa sacristie, et il cherche son étole. Il entend des bruits un peu bizarres dans l'église, donc. Il ouvre la porte et il trouve ses neveux en train de retirer l'or de la cachette. Et là, les deux neveux se tournent vers lui et sans se concerter, se précipite un des deux, abat sa barre de fer sur le front du pauvre prêtre, tandis que l'autre lui transperce le buste à coups de pelle, une pelle bien, bien acérée au bord. Il lui transperce le buste au niveau du cœur. Et Vigrial s'écroule dans une mare de sang. Les deux garçons, qui sont beaucoup plus méchants que ne le pensait le prêtre, se regardent à nouveau, ramassent tout ce qu'ils ont trouvé comme trésor et filent dans la forêt. Et ils courent le plus vite possible, sans rien dire, sans demander quoi que ce soit. Il n'y a pas grand monde, on ne les voit pas. Et ils passent toute la journée dans la forêt et ils chassent. Ils cachent l'or très probablement aussi. Mais au moment où ils reviennent au village, le jour est tombé, ils ont des lièvres, un chevreuil, ils ont une belle chasse qu'ils ramènent et ils rentrent tout joyeux, en sifflant, chantant, et ils tombent sur un village à genoux, en larmes, et on vient leur dire avec beaucoup de tendresse, leurs amis viennent leur dire, écoutez, un terrible malheur est arrivé, votre oncle a été assassiné, c'est épouvantable, l'église est fermée, elle a été souillée, le corps de votre oncle est dans la chapelle du monastère à côté, veillé par les religieuses, mais écoutez, on va vous accueillir, et les deux garçons éclatent en sanglots, se roulent par terre, se griffent les joues comme c'est d'usage, pleurent toutes les larmes de leur corps en disant qu'ils ne se remettront jamais d'un malheur pareil. Ah, mais pourquoi n'étaient-ils pas là pour secourir leur oncle? Enfin, ils font un numéro extraordinaire et tout le monde les croit. Et puis, le lendemain, parce qu'on ne traîne pas en ce temps-là, le lendemain, on prépare l'enterrement. Mais il y a tellement de paroissiens à venir qu'on décide de le faire devant l'église. L'église, il faut la reconsacrer. Le sang a été versé, il faut la reconsacrer. Donc, affluent les gens de partout, et beaucoup de clergé. Donc, on amène le mort dans un linceul et non pas dans un cercueil, juste enroulé dans un linceul. On le pose devant l'église et là, il y a tous les curés du coin et qui qu'on célèbre une messe de funérailles pour lui. Et ensuite seulement, on invite les gens qui sont venus à venir saluer le défunt, à mettre de l'eau bénite sur lui, à mettre dire une dernière prière. Et forcément, les premiers à s'avancer, c'est la famille. Donc, c'est les deux garçons. Mmh. Et au moment où ils arrivent devant le linceul qui dessine la forme du pauvre corps martyrisé, eh bien, à la tête, là où s'est abattue la barre de fer, du sang apparaît. Et sur le buste, là où la bêche est rentrée dans le corps de Vigrial, une autre tache de sang apparaît.
Et les deux neveux voient ça juste de près, c'est ça?
Et les deux neveux voient ça juste de près, mais tout le monde autour voit ça. Et les prêtres voient ça. Tout le monde comprend ce qui se passe. Et si, ce n'est qu'un cri. Vous l'avez tué, c'est vous les meurtriers. Ils montrent leur meurtrier. Les deux garçons essaient de s'enfuir. La foule, tellement en colère, se précipite sur eux. Ils n'ont pas le temps de gagner la forêt. On les rattrape. Et là, évidemment, tellement en colère, ils s'accusent mutuellement. Ils avouent leur forfait. Mais c'est pas moi, c'est mon frère. Non, c'est pas mon frère. C'est... Bref, ils s'en mêlent dans leurs explications. Mais l'évidence est là. Ils étaient présents. Ils sont partis. Et à leur retour, le mort montre qu'est le coupable. Ça, pour l'esprit des gens du village et pour l'esprit des prêtres, il n'y a pas de doute. Ils ont tué leur prêtre et ils ont tué leur oncle. Tuer un oncle, c'est comme tuer un père. Mmh. C'est un parricide. Donc, ils sont absolument coupables. Il n'y a pas de pire crime que ce qu'ils ont fait là.
Et qu'est-ce qui va leur arriver, alors?
Eh bien, il y a des arbres dans la forêt avec de grosses branches, alors on les pend. On les pend aussitôt, puisqu'il n'y a même pas tellement besoin de les torturer, puisqu'ils ont tout avoué. Donc, on les pend aussitôt, et puis ensuite, eh bien, on donne à Vigrial la sépulture qu'il doit, et après, on reconsacre l'église. Mais l'histoire de ce prêtre est restée célèbre par sa cruauté, par son injustice, et aussi par ce qui est une espèce de sombre miracle, quoi, ce sang qui apparaît et qui désigne le coupable. Et d'ailleurs, on retrouve dans les histoires de Brocéliande, dans le chevalier au lion. Le chevalier au lion est tué, mais de manière tout à fait légale et rigoureuse en combat loyal par Yvain. Et quand Yvain, rendu invisible par un anneau magique, passera à côté du corps du chevalier noir, eh bien, le chevalier noir se mettra à saigner aussi. Sauf que là, Yvain étant invisible, ça sème quand même une jolie panique.
Voilà donc pour cette histoire, ce fameux meurtre résolu donc de Saint-Léry. Juste une question, Claudine, en lien avec ce trésor de 70 pièces d'or, comme vous le disiez, est-ce qu'on sait ce qu'il est devenu, simplement?
Non, l'histoire ne se penche pas sur le trésor. On imagine qu'ils l'ont caché dans la forêt, comme leur culpabilité a été découverte très vite. Est-ce qu'on est allé le chercher ou est-ce que quelques vagabonds, quelques bûcherons passant par là s'est servi sans rien dire? Mais les pièces d'or, bon, le seigneur du Loup du Lac a dû bien en souffrir, mais le vol était une petite chose à côté du meurtre.
Bon, pas la peine en tout cas a priori de vous rendre avec des détecteurs du côté de Saint-Léry, il n'y aura pas forcément ces pièces d'or. Et puis juste pour justement relier un peu cette histoire à notre époque aujourd'hui, ce monastère, est-ce qu'il en reste des traces encore?
Alors, il a surtout été construit sur cet emplacement consacré, une très belle église qui est du 14e, 15e, 16e, bon, il y a eu beaucoup de reprises, une église qui était très chère à Anne de Bretagne, qui a beaucoup donné d'argent, qui a beaucoup fait de nom à cette église. Et cette église est d'abord architecturalement très belle. Dans l'église, il y a une grande horloge, un grand mécanisme d'horlogerie apparent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caisse autour et on voit tous les rouages, tous les engrenages. Et c'est extrêmement impressionnant parce qu'on voit le temps avancer à l'œil nu. C'est une machine qui a aussi un côté très médiéval et très steampunk en même temps. Et puis, il y a sur les façades de Saint-Léry, il y a des choses étranges, des statues étranges, mais la plus étrange de toutes, c'est ce qu'on appelle une Shilanagig, le nom vient d'Irlande, un personnage féminin assez grossièrement représenté, mais bien identifiable, une femme qui est donc accroupie face au public, les jambes et les cuisses écartées, et qui, avec ses mains, écarte les lèvres de son sexe.
Incroyable. On ne s'attend pas du tout à voir ça sur une église, évidemment.
Il y en a assez peu, mais ce sont en général, on les voit à partir du XIIe siècle, et ce sont en général à l'extérieur, toujours à l'extérieur, ou des églises ou à l'entrée de certains châteaux. Donc on se demande si elles n'avaient quand même pas une fonction de protection du lieu.
Très bien. Eh bien écoutez, l'enquête se poursuit, historique. Peut-être qu'on aura la réponse un jour à cette question. Mais en tout cas, si vous voulez aller voir tout ça du côté de Saint-Léry, vous nous donnez vraiment envie. En tout cas, allez-y. Surtout, ça sert aussi à ça, de raconter ces histoires et de rattacher ça à ce qui existe aujourd'hui dans la région. Et des histoires comme ça, vous en avez par dizaines dans Contes et légendes de Brocéliande par Claudine Glot et aussi Martine Tanneux. Merci encore, Claudine. À bientôt.
Merci à vous. À bientôt.